Et malgré le gros dérapage du déficit public français, on ne constate en tout cas pour l'instant aucune tension sur les taux souverains tricolores. Bonjour Pierre.
Bonjour David.
Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On ne parle dans les médias ici et ailleurs, notamment économiques, que de ces 5,5% de déficit public pour 2023, mais ça n'a aucun impact sur les marchés financiers, aucun. Les taux d'intérêt sur la dette française à 10 ans ne réagissent, mais pas du tout, du tout. Il y a une décorrélation, une déconnexion entre tout le bruit qu'il y a en France là-dessus et la réalité, en tout cas, des marchés financiers qui ne s'inquiètent pas du tout.
C'est vrai, mais est-ce finalement un point aberrant par rapport en fait à l'échiquier mondial? Je dirais, est-ce que vous connaissez le déficit public aux États-Unis hein, en
Ben oui.
2023? 8% du
Ben oui.
PIB. 8% du PIB, est-ce que les taux longs, est-ce que les taux à 10 ans sur les obligations souveraines américaines ont évolué et ont réagi?
Pardon, Pierre, plus proche de nous,
Oui.
il y a une révision à la hausse du déficit public en Italie, qui n'ont pas fait 5% en 2023, mais 7, 2 points de révision, ça me fait passer à côté
Bien
pour
sûr,
des débutants.
évidemment.
Les taux à 10 ans italiens n'ont pas flambé non plus.
Non, parce
Alors, ce n'est
que
pas
en
une invitation non
réalité,
plus à faire n'importe quoi avec les comptes
alors
publics.
ça
Hein.
va être justement le sujet. C'est qu'aujourd'hui, on
Pourquoi?
est dans.
Pourquoi?
Alors
Ça me
pourquoi?
saoule.
Déjà, un pour deux éléments. Premier élément, la question même du déficit public. Pourquoi en fait on a des taux longs en fait qui n'évoluent pas? C'est parce qu'en fait le niveau de taux d'intérêt c'est pas un taux administré. C'est le rapport entre l'offre et la demande d'obligations souveraines adossées en fait à un État. Aujourd'hui, quand vous achetez une obligation souveraine française, en réalité, les marchés internationaux. Donc il faut se poser la question de deux choses. Déjà, est-ce qu'il y a de l'argent aujourd'hui dans le marché susceptible de répondre aux besoins des États? Le premier élément, donc ça c'est la question de l'épargne. L'épargne naturellement générée par nos économies aujourd'hui sont élevées. Vous savez aussi, vous l'avez beaucoup commenté en fait sur ces plateaux, que le taux d'épargne en Europe est élevé. Alors qu'aux États-Unis ça commence à être moins le cas, en Europe pour le coup on a réagi au ralentissement actuel par une augmentation du taux
Et qui
d'épargne
dit
des
épargne
ménages.
élevée, dit épargne qui doit
Donc
s'investir.
voilà, il faut, que ça, faut bien qu'il soit porté par quelque chose. Donc la demande de produits financiers, dont en fait les obligations
En
souveraines,
lien avec le vieillissement, d'ailleurs, soit dit en passant.
en lien effectivement avec le vieillissement, fait que bah, il y a quand même de l'argent qui est disponible et qui explique que le taux d'intérêt étant le rapport entre l'offre et la demande, la demande est relativement élevée par rapport à ça. Ça, c'est le premier élément un peu structurel. Alors évidemment, si on a une récession cette année, une récession plus sévère qu'est-ce qui est anticipé, on va avoir à un moment donné une tension sur l'épargne naturellement à disposition. La
C'est pas la
première part.
prévision. La prévision, c'est à 1% moins.
Voilà, on verra ça, on pourra en reparler, ce sera peut-être
Ouais.
le sujet d'une autre émission dans le futur. Mais pour l'instant, on a déjà de l'argent, ce qui explique en fait qu'il n'y ait pas en fait d'évolution. Et après, vous pourriez vous dire, cet argent-là, il pourrait aller en fait acheter autre chose que des obligations souveraines. En fait, le
Française.
pari sous-jacent, et c'est pour ça que vous évoquiez tout à l'heure l'aléa de moralité associé au fait qu'on a des déficits publics qui sont élevés, il vient de deux choses. Déjà, un, on a un pays qui nous montre qu'avoir des déficits publics élevés pendant longtemps, voire même pendant très très longtemps, n'est pas forcément synonyme de taux d'intérêt qui augmente. Ce pays, il est un peu lointain, mais il est intéressant parce qu'il finalement, il a vécu avant nous beaucoup, beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre, c'est le Japon. Le Japon, ça fait depuis le milieu des années 90 que chaque année, il a entre 7 et 8% de déficit public chaque année. Évidemment, ce n'est pas sans conséquence sur le stock de dette publique, hein. Au début des années 90, au Japon, on a 60% du PIB de dette publique. Aujourd'hui, on en a
200.
260.
260.
260. Voilà, donc forcément, quand vous en
Oui,
ajoutez
sauf qu'on va
chaque
vous
année.
répondre que ce sont les Japonais qui
Oui,
sont détenteurs
non, c'est la Banque
de...
centrale qui aujourd'hui essentiellement est détentrice en fait
Oui,
de.
enfin,
Oui,
domestique, c'est géré de manière
mais vous
domestique.
avez raison parce que le point d'après en fait correspond à celui-ci. Donc déjà, un, on a un premier élément, bon, là devant nous, un laboratoire vivant. C'est pas parce qu'on fait du déficit public, voire même dans des proportions
On finit en
importantes et
faillite.
pendant longtemps, qu'on a un impact sur les taux d'intérêt, puisque le Japon paye encore en fait ses obligations souveraines avec un taux d'intérêt proche de
Zéro.
zéro, entre 0 et 1, en fonction des moments. Voilà, donc, dont acte. Donc, déjà, on a cela en tête. C'est le premier élément. Deuxième élément, finalement, qu'est-ce que jouent les investisseurs? Alors, il y en a trois, du coup. En Europe, bah, quand on achète la France ou on achète l'Italie, en fait, on achète l'Europe au niveau, en fait, de l'investissement international. Or, aujourd'hui, eh bien, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas vrai dans les faits, eh bien, quand vous achetez la France, vous achetez aussi un peu l'Allemagne, qui, elle, est excédentaire en termes.
Et on
Voilà.
achète la BCE qui est derrière et qui veille au
Et
plan.
surtout, après derrière, et c'est là où on a un vrai aléa de moralité, c'est qu'en fait, tous les investisseurs, et c'est ce qui fait aussi monter les marchés financiers, sont pas idiots. Plus on a du déficit public, ça veut dire plus on a une dette publique qui augmente, plus on a des montants importants à refinancer, plus on va forcer, finalement. On va mettre dans un corner, comme un chien qui est bloqué, en fait, dans le coin d'une
Le chien, c'est
pièce.
la BCE.
Le chien, c'est la BCE qui va être obligé de faire quoi? Soit il tue le chien, savoir, non, c'est pas la dette, soit c'est l'État, soit, en fait, il assassine l'économie en laissant des taux d'intérêt qui sont élevés et qui font que plus on a de déficit
Soit il
public, plus on a
intervient,
de dette
mais la
publique,
BCE n'intervient
plus
plus.
ça coûte
La
cher,
BCE n'intervient plus
pour
aujourd'hui.
l'instant. Et donc, en fait, le pari que font les investisseurs, et ça, c'est un pari, et on verra, en fait, au fil de l'année,
c'est qu'en cas de problème,
c'est que est-ce que la Banque Centrale Européenne va céder à la pression, comme les réserves fédérales américaines, même sujet, hein, 8% de déficit public, vous allez voir, l'État américain ne va pas pouvoir indéfiniment faire 8% de déficit public avec des taux qui sont au-delà de 4. Ouais. Pareil pour l'État français, qui sont avec des taux proches de 3. C'est-à-dire qu'avec les stocks de dette qu'on a, les charges financières associées à cette dette-là vont assez vite faire effet boule de neige, on ne pourra plus le faire.
Et donc la BCE sera amenée à faire quoi alors ?
Eh bien, elle sera amenée à...
Il y a déjà un gros stock, il y a déjà, je crois, 20 ou 25%
oui.
du stock.
Oui, c'est les montants. C'est, ça, c'est les montants. On doit être entre 20 et 25
Obligations souveraines françaises et même
de reste de l'Europe, puisque en fait, elle investit au prorata en fait des émissions de tous les pays. Oui. Mais en fait, le vrai sujet, le vrai pari qui est fait, c'est que la banque, c'est forcer la banque centrale à travers ce type de stratégie-là à baisser ses taux, voire même, et on peut prendre date d'ici la fin d'année, peut-être, si jamais en fait c'est nécessaire, arrêter, et d'ailleurs la Banque Centrale Américaine,
arrêter la réduction, de son
la réduction en fait de la taille du bilan, hein, et à savoir
c'est annoncé
que
déjà la Fed.
La Fed l'a fait, mais c'est automatique, c'est-à-dire que quand vous regardez les intérêts payés, que ce soit par les agents privés ou l'agent public, eh bien ça rend impossible la poursuite des éléments de soutien de la, des économies qui sont mises en place. Donc d'une certaine manière, le pari fait...
Donc le pari implicite est fait, c'est que...
C'est l'assureur en dernier recours.
La BCE.
La BCE, la Banque Centrale
Européenne. Même si rien ne l'est dans ses actes,
aujourd'hui,
ses paroles...
Non,
mais laisse penser que ce pari...
Rien dans ses actes. C'est-à-dire les 15 dernières années nous montrent que la Banque Centrale Européenne, alors que pas les 30 dernières années, mais les 15 dernières années, qu'elle a plutôt eu un biais américain, à savoir qu'elle est devenue plus pragmatique que par le passé, moins dogmatique. Et ce pragmatisme-là fait que, bah, soit, est-ce que vous pensez vraiment que les gouverneurs de la Banque Centrale seront prêts à assumer le fait que, eh bien, d'une certaine manière, l'État ne pourra plus être en soutien de l'économie, donc ça génère une récession, ou ça sera la Banque Centrale Européenne qui n'autorisera plus les ménages à emprunter pour, en fait, se loger ou investir dans l'immobilier, etc. Est-ce que vous croyez vraiment que les gouverneurs de la Banque Centrale seront prêts à accepter cela ? J'ai des doutes. En tout cas, les 15 dernières années nous montrent qu'elles ont fait preuve de pragmatisme, mais face en fait, à l'impossibilité de faire autre chose, eh bien, elles s'exécutent. Alors là, ça crée en fait un aléa moral. Et sachez, alors là, ça a été très bien théorisé, hein, à l'origine de toutes les bulles, il y a un aléa moral. C'est grosso modo quand on sait que quoi qu'il se passe, on sera sauvé. Et c'est un peu en fait ce que jouent aujourd'hui, finalement, et les gouvernants, et les investisseurs, à travers finalement leur posture vis-à-vis des taux, des obligations souveraines, c'est que de fait... On estime que celui qui bat monnaie ne laissera pas tomber en fait le législateur.
Ouais. Après, la France est en capacité à bien lever les impôts. Il y a aussi une réaction du gouvernement qui donne le sentiment, en tout cas, d'avoir une prise de conscience. Il y a des coupes. Non, mais il y a des coupes de 10 milliards d'euros cette année, peut-être plus, a dit Bruno Le Maire, dans la dépense publique, 20 milliards l'année prochaine. Donc, ça donne le sentiment que voilà que le pouvoir politique prend conscience du problème et donc ça rassure. Encore une fois, je regarde le spread. J'ai regardé le spread entre les taux à 10 ans allemands et français. On est toujours à 50 points de base, donc il y a vraiment zéro inquiétude.
Non, non. Mais après, attention, pour le coup, sur les engagements, il y a les mots, il y a les actes. Et là, pour le coup, hein, la dérive des finances publiques, elle n'est pas héritée en fait des législatures précédentes. Hein. Elle est bien le fait en fait de la législature en place, qui fait qu'aujourd'hui, il y a assez peu de crédit. Il faut quand même l'avouer au niveau international sur les mots portés en fait par les gouvernements français.
Oui, mais la France n'a aucune difficulté à emprunter de l'argent aujourd'hui sur les marchés.
Mais non, mais parce que je vous l'ai dit, parce que les gens ne jouent pas en fait la France et les perspectives françaises. Elles jouent
le parapluie,
zone euro
le parapluie.
Et le fait qu'elle soit adossée sur la deuxième plus grande banque centrale au niveau mondial, qui s'appelle la Banque Centrale Européenne, le pouvoir de battre monnaie. Et en sachant que finalement, nous sommes un petit peu, même si nous sommes un peu le canard boiteux de la zone euro, tout comme l'Italie, hein, mais d'une certaine manière, en achetant
l'Italie,
la France,
7% de déficit public sur 2023, révision, je l'ai déjà dit, en 25%.
Voilà, 240 points de PIB en plus. Mais encore une fois, quand vous avez en fait le pouvoir de battre monnaie et que vous avez la... Alors attention, cette conviction-là peut être battue en brèche, mais la conviction que la machine à imprimer des billets de banque servira naturellement à combler ces déficits-là, ce qui ne sera pas forcément le cas des agents privés, à partir de là, et en sachant que, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, que d'autres l'ont fait avant nous, dans des proportions qui sont absolument colossales, et ça dure depuis 30 ans, et ça continue, bien concrètement, les investisseurs, en fait...
Après, la psychologie aussi peut changer. Qu'est-ce qui peut faire douter les investisseurs? Qu'est-ce qui... ce flegme pourrait ne pas durer?
Ah bah là,
on l'a vu, on a eu une mini-tempête à l'époque, c'était au Royaume-Uni, quand Liz Truss, à l'époque, le Premier ministre, avait annoncé un... Pourtant, en annonçant des baisses d'impôts, c'est pas trop élevé, non financé, ça avait créé une mini-tempête sur le 10 ans anglais, et ça a fini par la démission de la Première ministre.
Oui, alors nous ne sommes pas l'Angleterre, nous ne sommes pas
esselés, isolés. Il y a un côté moutonnier
alors,
aussi chez les investisseurs.
Je vais répondre directement. Ce qui pourrait amener à une distorsion, c'est deux choses. Une posture de la Banque Centrale Européenne qui soit très clairement, pour le coup, anti-pragmatique et qui serait dogmatique non. Et alors là, la pression des Allemands pourrait nous amener en fait à aller jusque-là, même si la faiblesse de l'économie allemande rend aussi nécessaire la baisse des taux chez eux. Ouais. Donc j'y crois guère. Mais en fait, une posture rigide de la Banque centrale, où là, en l'occurrence, vu qu'on achète finalement la posture d'une banque centrale comme acheteur en dernier recours et qui fait qu'on est subventionné en achetant des obligations souveraines, eh bien si ça, on ne l'a pas, évidemment, ça crée du trouble. Mais en Europe, le vrai sujet principal, qui est toujours le même depuis en fait l'émergence de la zone euro, c'est si jamais on a pour le coup des discours politiques qui finissent par émettre un doute quant à la solidarité des pays au sein de la zone euro pour constituer la zone euro, comme ça a toujours été le cas. C'est presque le seul sujet, j'y crois pas sur la Banque Centrale Européenne, le seul sujet qui pourrait réamener une tension, je rappelle tout de même qu'en 2011-2012, la tension, elle a porté les taux italiens, les taux espagnols, à plus de 7%, les taux à 10 ans. Ouais. À plus de 7%. Donc, on en est très loin, mais j'irai aux mêmes causes, les mêmes effets. L'élément qui pourrait battre en brèche tout cela, ça ne sera pas un choix. Ce ne sera pas un choix de la politique monétaire, c'est impossible, ça serait du suicide. Alors, même si ça crée un halo de moralité et ça ne fait que déplacer le problème, je ne crois pas qu'il soit prêt à l'assumer. Donc ça, on ne l'aura pas. Ça pourrait être, à nouveau, en fait, des doutes qui pourraient venir en fait, moins de ceux qui, sont ceux qui portent les déficits publics. Hein. Les doutes quant à la solidarité européenne d'un point de vue budgétaire, ils viendront évidemment beaucoup plus des bons élèves que des mauvais élèves. Parce que le bon élève peut dire à un moment donné, moi, prenez l'Allemagne, j'ai 60% de déficit public, de dette publique. Ouais. 60 ouais. Nous, on en a le double. Ouais. Pas tout à fait, mais quasi le double. Les Italiens n'ont plus du double. À un moment donné, eux font des efforts, les autres n'en font pas. Vous pouvez être dans la situation, mais c'est quoi ce bordel? On va continuer en fait, payer les déficits des autres et à recycler nos excédents à la déficit des autres. Je ne suis pas prêt à prendre ce risque-là, je n'y crois plus. Mais bon, là, on est vraiment sur de la finance et de l'économie fiction. La bonne nouvelle pour la France, c'est que l'état de l'économie allemande nécessite aussi une politique monétaire qu'on appelle plus market-friendly. Ouais. Donc, ça pousse quand même...
Il y a un alignement d'intérêts.
C'est vrai. Et donc, naturellement, ça veut dire qu'à ces taux-là, malgré les déficits publics, attention, ce n'est pas du tout moral, mais d'un point de vue strictement financier, il est extrêmement probable que même les taux d'intérêt longs soient orientés à la baisse d'ici la fin d'année plutôt qu'à la hausse, en dépit du fait qu'on ait du déficit public et qu'on n'arrivera pas à le résoudre.
Et donc, ça ne pousse pas non plus à réduire à marche forcée le déficit public français de 5,5%. Est-ce qu'il faut vraiment aller vers 3% en 2027? En tout cas, rien ne pourrait nous y forcer tant que la France se finance tranquillement.
Alors, oui et non, d'une certaine manière, parce que, in fine, le fait de financer des déficits publics par de l'impression monétaire, parce que c'est ce vers quoi on s'oriente, vous comprenez bien que ça crée une distorsion, un aléa moralité qui fait que quand vous émettez de la monnaie pour prêter à l'État, enfin pour donner à l'État à gérer et qu'il le dépense, quand il le dépense, il le donne aux gens qui vont consommer. Donc, il y a quand même un côté artificiel à la richesse créée qui n'est pas souhaitable, en fait, à l'avenir. Donc, non, le vrai sujet pour la France, il n'est pas là. Ce n'est pas tellement le déficit en tant que tel. Il ne faut pas voir les choses en silo. Ouais. Donc, les choses sont connectées. Ça ne pose pas de problème d'avoir du déficit public si, en face, vous avez, en fait, une épargne nette des investissements positive et des excédents courants positifs. Ça veut dire quoi? Si, en gros, vous exportez plus que vous n'importez, ça veut dire que vous rapatriez de l'argent. Donc, c'est les agents privés, les entreprises qui le font.
Ce qui n'est pas le cas.
Mais là, chez nous, ce n'est pas le cas. On est déficitaire en compte courant. On est positif en épargne nette des investissements. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas consommé, donc la différence entre ce qu'on investit versus ce qui n'a pas été consommé, qui s'appelle l'épargne, si ça, c'est positif, ça permet de financer ces déficits par ailleurs. La problématique aujourd'hui en France, c'est que cette équation n'est pas équilibrée. 5% déficit public, du déficit courant, et le taux d'épargne nette des investissements n'est pas suffisant pour financer le tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas autonomes. Il y a deux solutions par rapport à ça. Soit on doit aller chercher finalement l'argent des autres pour finir notre fin de mois, ce que font les Américains depuis 25 ans.
Ce qu'on fait aussi.
Ce qu'on fait aujourd'hui. Ben, nous ne sommes pas les États-Unis. Soit on doit aller toquer à la porte de la Banque centrale pour qu'elle émette des billets et équilibrer l'équation. Donc, à la fin des fins, la vraie question, c'est celle de l'autonomie. L'autonomie financière. Vous pouvez jouer sur ce levier-là un temps, mais c'est comme d'habitude. Lorsque une solution qui doit rester temporaire devient structurelle et permanente, c'est là, à terme, où on finit par générer du doute. Et c'est le doute qui doit se traduire par une prime de risque.
Oui, mais à terme, on
sera tous morts. C'est pour ça que je vous dis qu'il est extrêmement peu probable au final que tout cela...
En France.
En tout cas, pas dans un horizon en fait, de 6-9 mois. On se reparle là d'ici là.
Ah, 6-9 mois, c'est hyper court.
Non, oui, mais attention, je veux dire qu'on est dans un monde dans lequel en fait, les stocks de dette apportés sont importants. On a quand même des primes de risque qui sont nulles à peu près partout. Donc, on en reparlera pour ce qui se passera en fait, sur les années qui suivent. Là, pour le coup, on a un horizon de projection qui ne peut être que, disons, à fin d'année, dans un premier temps.
Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView.
Merci David.
Salut.